Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Un départ en retraite anticipé pour des raisons de sécurité. Placé sous protection, le proviseur du lycée Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement de Paris, a dû quitter ses fonctions, menacé de mort sur les réseaux sociaux.
Il y avait des rumeurs comme quoi le principal, il avait giflé une fille. Parce qu'il était islamophobe, raciste, etc.
Il y a eu des menaces de mort comme quoi il disait oui, ils vont attraper le proviseur, ils vont l'entendre devant chez lui et tout.
Le 28 février dernier, une altercation avait éclaté dans l'établissement avec une élève de BTS qui refusait de retirer son voile. La jeune femme a accusé le proviseur de l'avoir frappée. Sa plainte a été classée sans suite, mais elle sera poursuivie par l'État pour dénonciation calomnieuse.
Il se diffuse et il se propage sur ces réseaux des éléments qui sont tout à fait inexacts, ce qui a été à l'origine de l'assassinat de Samuel Paty. Et évidemment, nous sommes très attentifs à ce type de situation.
4 ans après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, jeté en pâture sur les réseaux sociaux, les récentes menaces de mort proférées contre le proviseur parisien s'ajoutent aux menaces d'attentat reçues ces derniers jours par 150 établissements scolaires. Des messageries ont été piratées, des élèves ont reçu des vidéos de décapitation. De la gauche à l'extrême droite, en passant par les bancs LR, des responsables politiques dénoncent une faillite de l'État face à la mouvance islamiste.
Il est important que la peur change de camp. Quand allez-vous en finir avec le pas de vague? Quand allez-vous enfin protéger nos professeurs?
L'islam politique et identitaire est en train de conquérir notre école et la République démissionne.
Alors, la République a-t-elle vraiment baissé les bras? Quel est réellement l'état de la menace terroriste qui pèse sur l'école? L'islamisme y gagne-t-il du terrain?
3 invités pour ce débat. Carole Zerbib, bonsoir madame, vous êtes proviseure de lycée, vous êtes membre du SNPDEN UNSA, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Vous estimez que depuis la mort de Samuel Paty, l'assassinat de Samuel Paty, il n'y a quand même la volonté de ne plus mettre les choses sous le tapis. Vous voyez, vous dites voir la différence, vous dites que vous êtes accompagnée et que vous n'êtes plus seule. À côté de vous, Amine El Khatmi, essayiste, cofondateur du Printemps Républicain. Bonsoir Amine El Khatmi, vous conseillez aussi Valérie Pécresse sur les questions de laïcité et de citoyenneté à la région Île-de-France, mais votre présence ici n'engage que vous, évidemment. Selon vous, il y a évidemment une capitulation de l'État si on considère les événements depuis 10 ans de Samuel Paty, précisément, à Dominique Bernard, assassiné. À chaque fois, on dit plus jamais ça, et ça continue. Les atteintes à la laïcité, par ailleurs, soulignez-vous, explose. Et enfin, Amélie Chély, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste de l'islam politique et vous enseignez à l'université Sorbonne Nouvelle. Votre dernier essai, Le Coran de sang, vient de paraître aux éditions du CERF. Et selon vous, l'école devient une cible privilégiée de l'islamisme car c'est à l'école qu'on structure la pensée. C'est là qu'on apprend la notion de laïcité. Et pour l'État islamique, elle est considérée comme une mesure coercitive et anti-religieuse. Et on démarre ce débat avec la déclaration du jour.
Tout à fait. C'est celle du rectorat de Paris. Après donc le départ du proviseur, au cœur de l'actualité qui nous concerne, je cite cette déclaration. Le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel, accompagné et soutenu par les services du rectorat, a quitté son poste pour convenance personnelle. Carole Zerbib, convenance personnelle, qu'est-ce que vous lisez, vous, dans cette expression un euphémisme en quelque sorte? C'est-à-dire, il y a quoi? Une forme de principe de précaution pour sa sécurité ou une capitulation, comme on le disait en introduction?
Non, c'est pas parce qu'on protège qu'on recule et qu'on renonce. Ce proviseur était menacé, il fallait qu'il soit protégé. Voilà. Quand il y a des menaces qui touchent un chef d'établissement et l'ensemble de la communauté éducative, il est tout à fait normal, raisonnable, à un moment, de l'extraire pour le protéger.
Mais il a anticipé sa retraite tout de même à cause d'une insécurité.
Oui, mais parce qu'il fallait bien le protéger. Au moment de l'affaire Samuel Paty, c'est quand même bien ce qu'on a reproché à l'État, oui, qu'il n'avait pas su protéger ce personnel. Eh bien là, l'État a pris ses responsabilités et a proposé de le protéger en le retirant, ce qui est raisonnable et ce qui était normal de faire.
Amine El Khatmi, le seul moyen de le protéger, c'était de lui dire de partir en retraite anticipée. Qu'est-ce que vous y voyez, vous?
J'y vois une défaite terrible de la République. Nous sommes 20 ans après la loi de 2004.
Rappelez-nous la loi de 2004.
Sur l'interdiction des signes religieux à l'école. En janvier prochain, ce sera les 10 ans de Charlie. Il y a 4 ans, c'était Samuel
Paty. L'attentat de Charlie Hebdo.
L'attentat de Charlie. Il y a 4 mois, c'était Dominique Bernard, le professeur d'Arras. Et à chaque fois, on a entendu plus jamais ça, des appels au sursaut. On nous a expliqué que la République ne céderait pas. Et en fait, elle a cédé à chaque fois. À chaque fois, quel que soit le sujet, la situation aujourd'hui est pire qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Et donc, d'une certaine manière, les islamistes ont gagné leur pari.
Gabriel Attal, lui, ne dit pas ça.
Il va réagir. Hein.
Alors, non, je ne suis pas d'accord avec vous. La République ne cède pas. Nous continuons à faire notre travail et à faire appliquer la loi dans les établissements scolaires. Reculer, ce serait ne plus appliquer la loi dans les établissements scolaires. Maintenant, quand un personnel, quand sa vie est mise en danger, quand il y a des menaces importantes, c'est bien important, c'est bien nécessaire de le retirer. Et je vous l'ai dit, protéger, ce n'est pas reculer. Nous allons continuer à faire notre travail, nous ne reculons pas, nous sommes bien une digue face aux attaques. Alors on va pas nier, il y a des attaques dans l'école, et bien nous continuons à être une digue et à faire face à ces attaques.
Et pardon madame, le fait même qu'il faille, rendez-vous compte de ce qu'on est en train de dire, qu'il faille retirer un enseignant, un proviseur, peu importe, un membre de la communauté éducative, qu'il faille le retirer du lieu d'exercice de sa profession, c'est-à-dire l'école, au seul motif important qu'il risque sa vie, si ça, ce n'est pas, d'une certaine manière, une défaite terrible pour la République, je ne sais pas comment la nommer.
Alors, on a écouté le Premier ministre Gabriel Attal, vous savez qu'il était sur TF1 hier, et lui, il dit, il n'y a en aucune façon un recul, on va l'écouter.
L'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ses agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires. Il ne faut rien laisser passer et je ne laisserai jamais rien passer en la matière.
Amélie Chilly, vous qui étudiez ces questions de près, est-ce qu'il y a eu un changement de tonalité politique tout de même sur ces questions-là ?
Il y a eu un changement de l'intérieur qui est plutôt désespérant, mais un changement de l'extérieur qui l'est beaucoup moins.
Comme expliquez-nous disais, ça.
Oui, c'est-à-dire qu'on a effectivement décidé de détabouiser cette chose-là. Avant, le pas de vague, comme vous l'expliquiez, était mettre en la demeure. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité à pointer du doigt, un petit peu comme Samuel Paty, avec son assassinat, il y a eu donc cette capacité à pointer du doigt le fait d'être visé dans le cadre d'enseignement, mais aussi les frères musulmans. C'était un peu tabou de dire que les frères musulmans pouvaient participer justement à cette conjonction de déchaînement de violence. Ça a permis justement de décomplexer ce discours-là. De l'intérieur, en revanche, c'est-à-dire que les années sont tellement passées que l'autocensure qu'on constate chez nombre de professeurs a plus ou moins été intégrée. C'est ce qui me permet de désespérer un petit peu. En fonction des disciplines, alors, l'histoire est bien évidemment plus touchée que les autres disciplines, mais en fonction des disciplines, on a intégré par exemple que certains élèves refusent d'entrer en cours de musique parce que la musique c'est illicite du point de vue religieux, refusent par exemple d'étudier des œuvres de littérature dès lors qu'il s'agisse de l'union des corps dans un passage, etc. etc. Et cela a été intégré.
Et Carole Zerbi, est-ce que vous vous retrouvez confrontée à ce que vient de décrire Amélie Chilly dans votre quotidien de proviseur? Des enfants qui ne veulent pas étudier ce qu'on leur demande d'apprendre.
Oui, ça arrive.
Comment vous faites ?
Il y a des contestations d'enseignement pour des raisons religieuses. Eh bien, c'est à nous, on fait ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire, de la pédagogie. On explique aux élèves la loi de 2004 et on leur dit aussi qu'à partir du moment où ils sont dans un établissement scolaire, ils doivent accepter tous les enseignements qui sont proposés.
Et ça marche ?
Mais pas toujours. Des fois, c'est difficile avec les familles de le faire comprendre. Mais il faut aussi que les familles comprennent que l'éducation est un droit, l'école républicaine et gratuite est un droit, mais qu'on a aussi des devoirs vis-à-vis de cette école, c'est d'en respecter toutes les lois. Oui. Et c'est à nous d'expliquer ça, aux élèves et aux familles.
Ninel Katmi, on entend le cas par cas. Est-ce que ça peut être une solution, une réponse, justement ?
Mais là où je persiste à dire que les islamistes ont d'une certaine manière gagné, c'est que l'école était l'un des champs de bataille privilégiés des islamistes. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, on enseigne la raison, l'esprit critique, la compréhension du monde par le fait scientifique et non par la superstition. On y enseigne l'égalité femmes-hommes, la laïcité, le droit des femmes à disposer de leur corps. Et donc l'école est la cible toujours privilégiée. D'ailleurs, l'assaillant d'Arras, lorsqu'il commet son attaque
et qu'il croise Dominique Bernard,
il lui dit « C'est toi le professeur d'histoire-géographie en Afghanistan, la première décision que prennent les talibans, c'est d'interdire l'école aux femmes. » Et donc, qu'à l'école, qui est l'ennemi des intégristes et des islamistes, on est aujourd'hui des professeurs mis en retrait par raison de sécurité, oui, d'une certaine manière, ça signe la victoire des islamistes.
Oui, Amélie Chély, en même temps, on a 150 menaces d'attentat en une semaine, hein, en parallèle de ce qu'on vient de décrire sur les problèmes de laïcité. Quel est réellement l'état du risque terroriste? Ça a beaucoup augmenté ces dernières années?
Oui, tout à fait. Si je peux rester concentrée, pour répondre à votre question quand oui. même, hein, sur la question de l'école, il ne faut pas oublier qu'avec l'interdiction du port de l'abaya, on a eu une menace perpétrée par Al-Qaïda.
Qui est plus récente que la loi de 2004, hein, voilà. Ça c'était à la rentrée
tout
dernière.
À fait, tout à fait, donc c'était Al-Qaïda au Yémen, hein, c'est ACPA, qui avait... par le biais de sa presse, fait des menaces à l'encontre de ministères français, mais aussi d'institutions suédoises, mais c'était pour les histoires de Coran brûlé. Mais ce qui est intéressant, c'est que suite à ça, on a vu se développer dans les messageries cryptées des extraits qui ont été rediffusés du journal Dar al-Islam, qui est le journal de Daesh francophone, qui avait été publié en novembre 2015, suite aux attentats de Paris. C'était le numéro 7, titré « La France à genoux ». Et c'était dans ce journal-là, qu'on avait tout le développement de ce que pense Daesh de l'école, de comment viser l'école, de pourquoi viser l'école. Point important aussi, dans ce document-là, il est question du crime des enfants que l'école française encourage et qu'ils appellent pudiquement, pour reprendre les propos de Daesh, l'avortement. Or, on vient d'inscrire l'avortement
dans la Constitution. Donc pour vous, ces 150 menaces d'attentats en une semaine, c'est vraisemblablement attribuable à l'organisation État islamique. Alors, et pas à des cinglés ou à des trolls russes ou à des gens qui sont dans un effet mimétique.
Ça peut, mais il y a cette tendance-là qui est clairement perceptible sur les messageries cryptées. C'est sur cela que nous concentrons nos efforts au laboratoire où je me trouve à la Sorbonne. Je n'y enseigne pas, mais j'y suis chercheuse. Laboratoire, oui. Voilà. Et parallèlement à ça, donc, il y a des menaces d'attentats qui sont perceptibles dans des modus operandi très particuliers, inaugurés par la prise de parole d'Al Adnani en 2014, qui requièrent qu'on prenne tout ce qui tombe sous la main, un couteau, une pierre, un camion, ce qui vient finalement individualiser, même s'il n'y a pas de loup solitaire, hein, c'est toujours des cellules, mais qui vient finalement désolidariser un point d'organisation des attaques elles-mêmes. Après, avec ce qui vient de se passer à Moscou, on peut avoir le sentiment qu'on revient sur une aptitude à projeter des attentats de grande ampleur.
Carole Zerbib, juste un point. Est-ce que vous avez eu ce genre d'alerte ces derniers jours ou pas, vous? Est-ce que vous avez vu augmenter de manière exponentielle ou pas, vous, dans votre établissement, sans qu'on le sache?
Les mails de menaces,
oui, on va dire.
Alors, dans mon établissement, j'ai eu la chance de ne pas être concernée. Oui. Mais vous voyez, mes propres enfants ont reçu ce mail.
Voilà. Je vais juste vous citer ce que dit Philippe Bechaud. Alors, c'est un collègue à vous, hein. Il s'exprime ce matin sur Europe 1. Il est secrétaire général adjoint, tout à fait, du Snubden FSU, lui. Il dit « Je ne pense pas qu'il y ait plus d'événements aujourd'hui qu'il y a 20 ans ». Quand vous entendez ça et que vous êtes d'accord avec lui, vous dites quand même qu'il exagère un peu.
C'est-à-dire que les atteintes à la laïcité, elles ont changé. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des atteintes à la laïcité par le port de tenues religieuses. Oui. Là, on a davantage de contestations d'enseignement. Vous voyez, il y a une mutation, en fait, oui. Si je puis dire, de ces atteintes à la laïcité. Il y a 20 ans, on n'avait pas autant, moi, dans ma pratique, je n'avais pas autant de contestations d'enseignement.
C'est-à-dire qu'ils testent votre autorité? Comme cela aussi, donc, par une abaya.
Il y a des gens qui sont tués maintenant. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Enfin, ça peut relever du détail, mais on a juste, par rapport à il y a 20 ans, des enseignants qui sont assassinés.
Oui, oui, vous référez à Samuel Paty et Dominique Bernard.
Qui sont placés dans des situations de menace telles. Je pense à Didier Lemaire à Trappes, je pense au proviseur du lycée Maurice Ravel, où ils sont contraints de quitter le lieu d'exercice de leur profession. Il me semble que ce n'était pas le cas il y a 20 ans.
Daniel, alors, pardon. Carole Zerbib, pardon. Effectivement, il y a, et on le dit, on ne va pas le nier, il y a une tentative de déstabilisation de l'école républicaine, mais nous y faisons face, l'institution y fait face, ce qui effectivement n'était pas le cas avant. J'ai connu le pas de vague, donc je vois bien,
d'accord.
Je sais, j'ai conscience en fait de cette différence. Il est vrai qu'avant, toutes ces atteintes à la laïcité, où ces contestations étaient mises sous le tapis.
Vous avez des référents laïcité, par exemple, ça vous aide, ça? Ils viennent très concrètement parler aux élèves, vous parlez à vous.
Quand on a une difficulté, quand on a une difficulté, on peut faire appel aux référents laïcité de notre établissement. Et ça, c'est un soutien et un accompagnement essentiel.
Alors, on va évoquer avec vous trois un sondage, sondage CSA qui a été proposé parallèlement au fameux rapport du Sénat qui a été révélé le 6 mars dernier sur l'aggravation et l'augmentation de menaces, de morts et de menaces avec l'arme blanche contre les enseignants.
Oui, voilà, c'est une enquête sur la perception de la laïcité par les Français dans les services publics. Et on apprend déjà sur le non-respect de la laïcité que 47% des personnes interrogées pensent que c'est à l'école que la laïcité est le moins respectée, alors qu'ils sont 32% à le penser pour les hôpitaux et 29% pour les mairies, préfectures et organismes de sécurité sociale. Un autre point intéressant dans ce sondage, c'est la fracture générationnelle au sujet de la laïcité. 50% des 18-24 ans, c'est donc un jeune sur deux, estiment que la laïcité est une source de discrimination en France. C'est 36% pour l'ensemble de la population. Et enfin, 49% des jeunes estiment que l'interdiction du port de signes religieux visibles à l'école est une atteinte à la liberté de religion. C'est 29% pour l'ensemble de la population. Alors, est-ce que la laïcité à l'école aujourd'hui est en danger? C'est ce que concluent en tout cas deux sénateurs dans un rapport, le rapport dont vous venez de parler. Ils estiment que les valeurs de la République à l'école sont de plus en plus remises en cause. Ils parlent même de contestation généralisée de ces valeurs, et ils insistent aussi sur le fait que la laïcité est méconnue, voire rejetée, y compris par de jeunes professeurs qui adhèrent, eux, plutôt à des notions de laïcité ouverte ou de laïcité plurielle. Amélie Chély, est-ce que la laïcité telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est obsolète ?
Le vrai problème, c'est qu'elle ne va plus de soi. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a 30 ou 40 ans, quand on s'installait à son siège à l'école, on ne se posait pas la question de la laïcité. Ça allait de soi.
Et ça veut dire qu'il faut la redéfinir ?
Il y a eu cette chose-là qui allait de soi a mécaniquement eu pour conséquence qu'on ne l'enseignait plus, parce que ça allait trop de soi. Il faut redéfinir la laïcité. C'est-à-dire que même parfois, quand j'explique que la laïcité permet la pratique religieuse, dès lors qu'elle ne met pas un pied dans la sphère publique, certains étudiants sont un peu surpris parce que, de leur point de vue, c'est une mesure coercitive,
oui,
anti-religieuse.
Il
y a une sorte de confusion entre athéisme et laïcité. Quand je leur explique qu'il y a des fervents défenseurs de la laïcité qui sont extrêmement pieux, ils ont du mal à comprendre. Donc c'est vraiment ça le problème. Il y a aussi un autre problème qui est générationnel, c'est que vous parliez de l'évolution des atteintes à la laïcité. Il y a quelques décennies, quand il y avait des atteintes à la laïcité, souvent c'était les élèves qui se permettaient des excentricités par rapport à leurs parents qui les calmaient après. Aujourd'hui, c'est plus le contraire, c'est les parents qui viennent encourager ces atteintes à la laïcité perpétrées par leurs enfants.
Carole Zerbib, qu'en est-il des professeurs que vous avez dans votre établissement? Est-ce que eux aussi, parfois, est-ce qu'il y a une confusion entre athéisme et pratique religieuse? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils n'ont pas très bien compris aussi la différence entre plutôt athéisme et laïcité?
Alors oui, il y a un défaut de formation des enseignants, la formation initiale, la formation continue. Il y a des enseignants qui sont en capacité d'expliquer et de comprendre la laïcité, notamment les professeurs d'histoire-géo, mais il faut que tous les fonctionnaires de la République soient en capacité de comprendre et de transmettre les valeurs de la République et qu'ils aient conscience que leur travail, c'est de former des républicains.
Mais ce n'était pas le cas il y a 10 ans avec ces professeurs, ceux que vous aviez sous votre autorité ou qui étaient vos collègues à ce moment-là quand vous étiez pour vous dire, la laïcité s'imposait, tout le monde la connaissait. Là, vous avez l'impression qu'il y a un défaut.
Oui, il y a un désengagement de certains enseignants sur ces questions de laïcité.
Par quoi? Par mécompréhension ou par prudence ou par indifférence ou parce que
parce qu'il n'y adhère plus. Voilà. Il y a des enseignants qui n'adhèrent plus, qui relativisent et qui se disent pourquoi pas un autre modèle. En tout cas, c'est ce qu'on observe. Mais comme on l'observe aussi, vous parliez des jeunes qui étaient désengagés, eh bien oui, chez les jeunes, il y a une tentation du modèle anglo-saxon. Voilà, une tentation assez forte. Hein. Souvent, les élèves me disent...
C'est quoi le modèle anglo-saxon? Venez comme vous êtes, comme as you are,
voilà.
C'est ça? Un
venez
mélange de communautarisme et d'individualisme, c'est
voilà.
Ça
mais ce, mais, et nous, notre travail, c'est de leur expliquer. Ce n'est pas le projet de républicain français, c'est autre chose.
Oui. Le modèle anglo-saxon, à la fin, ça donne des milliers d'islamistes qui défendent la charia dans les rues de Londres, comme on l'a vu après le 7 octobre. Je ne suis pas persuadé que ce soit un modèle enviable. La laïcité, elle est victime de campagnes qui durent depuis des années, où on explique que c'est une arme anti-musulman, où on explique donc que c'est islamophobe, que c'est raciste, que le modèle français est un modèle... que l'universalisme à la française, effectivement, est une arme contre les musulmans. Je rappelle qu'il y a quelques années, des partis de gauche dont l'ADN même était la défense de la laïcité ont défilé avec des islamistes dans les rues du pays en 2019 pour réclamer l'abrogation des lois de 2004 sur les signes religieux à l'école et de 2010 sur la dissimulation du visage dans l'espace public. Et à contrario, les mêmes, avec des influenceurs, avec des personnalités, avec un certain nombre de journalistes et de politiques, ont expliqué que le modèle anglo-saxon était formidable. Et oui, donc, la génération qui vient est imprégnée de ces discours-là.
Amélie Féli, on entend ce que dit Amine El-Khatmi, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque d'une surenchère d'une partie du monde politique qui insiste sur la figure d'un ennemi intérieur, en l'occurrence, pour être clair, les musulmans? Est-ce que ce n'est pas ça aussi le risque d'une dérive qui ne concerne pas, de fait, tous les musulmans de France et tous les lycéens que vous avez, j'imagine, dans votre établissement?
Bien, peut-être que de la même façon qu'il faut réenseigner ce que veut vraiment dire la laïcité, il serait bon de détabouiser le fait religieux pour expliquer la différence entre une religion et une idéologisation de cette même religion.
Entre la religion musulmane et l'islam politique.
Tout à fait. Mmh. Je pense que là, c'est une très, très grande lacune. Et encore aujourd'hui, j'entends même des personnes qui ont quand même un certain bagage d'éducation utiliser le mot islam pour le mot islamisme indistinctement sans s'en rendre compte.
Vous voyez, on a une occasion en janvier prochain, pardon,
janvier
les 10 ans de Charlie. Les lycéens d'aujourd'hui avaient entre 5 et 8 ans à l'époque des attentats. Ils ne sont probablement donc pas rentrer dans cette histoire à ce moment-là. Mmh. On a là une occasion, pour peut-être finir sur une touche un peu plus positive, optimiste. On a une occasion en janvier prochain et l'année prochaine, à travers cet événement, la commémoration de cet événement, de mener une grande offensive à l'école sur la laïcité, le dessin de presse, la caricature, qu'est-ce que l'universalisme. Alors, voilà, ça peut être un défi.
Carole, est-ce que ça sera une occasion pour vous, justement, de parler laïcité, peut-être parler laïcité différemment?
Oui, bien sûr. Enfin, tous les événements, enfin voilà, tout ce dont on pourrait se saisir pour échanger, former les élèves sur ces questions, nous sera utile. Je crois que il faut pas qu'on abandonne le terrain. Il faut qu'on continue à expliquer aux élèves et aussi aux familles ce qu'est la laïcité et en quoi. Et là, je crois aussi qu'il faut positiver le discours et expliquer aux élèves que ce n'est pas une loi liberticide, mais bien au contraire, c'est une loi qui les libère, qui leur permet d'être libres. Voilà, qui leur permet de croire ou de ne pas croire et d'être libérés du joug des dogmatismes.
Et vous pensez que ça peut encore marcher?
Mais oui, j'y crois. Sinon, je ne serais plus à ma place.
Et sinon, vous ne seriez pas là. Ouais. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.